Présente dans 15 pays d'Afrique, Suno Assurance vous souhaite une belle année 2018 pleine d'assurance et vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc choisi de consacrer cette émission à l'épilepsie et si chaque jour, il nous semble nécessaire dans Priorité Santé de définir les différents troubles que nous abordons, eh bien dans le cas de l'épilepsie, cette description précise s'avère indispensable. Pourquoi ? Peut-être parce que plus que toute autre maladie, l'épilepsie est entourée de fausses croyances, des idées reçues qui peuvent surprendre dans la mesure où cette altération neurologique affecte pas moins de 50 millions de personnes dans le monde. Une affection chronique qui a des origines diverses, maladie aux manifestations parfois spectaculaires, l'épilepsie conserve une réputation injustifiée. Dans l'émission, nous verrons quels traitements existent, quelles pistes sont explorées par les chercheurs. Sur le plan pratique, quelle conduite à tenir en cas de crise pour permettre aux patients de mieux vivre et à leur entourage de mieux comprendre, accompagner les malades et limiter la stigmatisation. Avec nous en studio, le professeur Michel Bollack, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, vous dirigez l'unité d'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une affection qui, chez l'enfant aussi, on va le voir, peut prendre de multiples formes. Nous serons en ligne avec le docteur Stéphane Auvin, neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, qui vient de signer l'épilepsie chez l'enfant, conseil de vie au quotidien aux éditions John Libet Eurotext. Et puis en deuxième partie d'émission, on va retrouver en ligne de Dakar le professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre, secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, sexologue. Et puis pour témoigner, poser vos questions, notre numéro, c'est le 33 84 22 75 75.
RFI.
Il s'agit donc de l'une des affections neurologiques les plus fréquentes, hein, 50 millions d'épileptiques dans le monde, 500 000 personnes touchées en France. Ce n'est pas une maladie mentale, mais bien neurologique. Professeur Michel Bollack, comment décrire la maladie ? Comment d'abord la définir ?
Alors, en termes de phénomène, il se produit dans le cerveau une décharge, qu'on va qualifier de décharge électrique, où un nombre plus ou moins important de neurones vont se mettre à décharger anormalement. On va dire qu'ils sont hyper-excitables. Et cette décharge peut, si elle concerne un petit nombre de neurones, peut passer inaperçue. Mais nous, on peut l'avoir sur l'électroencéphalogramme. Et si elle concerne une population plus importante de neurones, eh bien, ça va s'exprimer par des symptômes. Par des symptômes où, d'un seul coup, eh bien, il peut y avoir des phénomènes moteurs, des phénomènes visuels. Et puis, ce qu'il y a de plus connu, c'est quand la décharge se bilatéralise, touche les deux côtés du cerveau, la personne tombe, et va avoir ce qu'on appelle des convulsions, une crise tonico-clonique, avec une phase de raideur, une phase de secousse. Et puis ensuite, on dit une phase de récupération, où la personne est souvent un petit peu inconsciente, parfois un peu comateuse, ce qui inquiète toujours beaucoup les gens, avec un peu de salive, ou parfois un petit peu de sang dans la bouche si jamais il y a une morsure de langue. Voilà le scénario le plus classique.
Des impulsions dans certaines zones du cerveau, ces crises. Alors, les crises, hein, elles peuvent dépendre, professeur Bollack, leur durée, leur fréquence peuvent varier.
Exactement. Donc, on a beaucoup de scénarios possibles selon l'endroit où va se produire la décharge. On a des scénarios très minimes avec une petite absence de quelques dizaines de secondes. On a des scénarios majeurs comme celui que je viens de décrire. Et puis on a des scénarios intermédiaires où les patients peuvent avoir des tas de troubles différents. Ensuite, il y a la fréquence. Il y a des gens qui font une crise d'épilepsie dans leur vie. Il y a des gens qui font quelques crises. Et puis il va y avoir des gens qui malheureusement vont avoir une maladie chronique où les crises vont se répéter, où des traitements vont être nécessaires. Et on sait que malgré ces traitements, eh bien à peu près 30% des gens vont continuer à faire des crises malgré des traitements bien conduits.
Est-ce que quelqu'un qui a une crise avec des convulsions est forcément épileptique ?
Non, une crise d'épilepsie peut être un phénomène isolé ou un phénomène circonstanciel, sans pour autant que le risque de faire des crises perdure, si vous voulez. Tout le monde peut tous faire une crise d'épilepsie si on ne dort pas pendant 3 jours et 3 nuits, sous l'effet de certains médicaments, sous l'effet de certains toxiques. Ce sont des crises circonstancielles qui, le plus souvent, ne nécessitent pas de démarrer un traitement et qui ne conduisent pas au diagnostic d'une maladie épileptique.
Et sur quelle base, justement, ce diagnostic est posé? Il y a eu la crise, ensuite il y a des examens systématiquement?
Exactement. Après une crise d'épilepsie, il faut que des gens qui connaissent bien la maladie essaient d'établir quel est le risque de récidive chez cet individu donné. Donc il faut toujours adapter les choses à l'individu. Donc il faut savoir comment est survenue la crise, dans quelles circonstances, voir s'il n'y a pas d'autres types de manifestations. Et puis faire des examens complémentaires, électroencéphalogramme, IRM, pour voir si on trouve d'autres éléments qui permettent de caractériser un problème d'épilepsie.
Alors l'affection peut prendre de nombreuses formes, on l'a compris, hein, professeur Michel Bollack. Dans un certain nombre de cas, il n'y a aucune explication pourquoi cet individu, pourquoi ce patient est épileptique.
Il y a des situations, effectivement, où... l'épilepsie est confirmée, parce que c'est un diagnostic qu'on appelle clinique, mais où les examens complémentaires ne nous donnent aucun renseignement. On a l'habitude, c'est frustrant, on a un peu l'habitude d'être frustré. Les patients ne comprennent pas, les patients et les familles ne comprennent pas quand on leur dit « il n'y a rien, tout est normal », mais c'est néanmoins une crise d'épilepsie, et néanmoins il y a un risque de récidive élevé, et donc il faut un traitement.
Et ça doit être une certaine source d'angoisse. Par contre, il y a d'autres cas, professeur Bollack, là où il y a des causes concrètes. Il peut y avoir eu des accidents à différents moments de la vie.
Alors, il y a beaucoup de causes différentes, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a des causes, des traumatismes crâniens, il y a des maladies infectieuses, il y a des malformations. Et puis, comme dans toutes les maladies, de plus en plus, on fait des progrès dans le domaine de la génétique. Et donc, on trouve des anomalies génétiques ou des variantes génétiques qui peuvent... prédisposer ou conduire à ce genre de maladie.
Avec aussi des traumatismes parfois lors de la naissance.
Oui, la naissance est une période un petit peu vulnérable, hein, où la vascularisation ou l'oxygénation du cerveau peuvent être compromises, parfois pendant quelques instants, et ça peut parfois créer des lésions qui par la suite peuvent devenir épileptogènes. Mais un des points cruciaux de la recherche, c'est de savoir pourquoi quand il y a une lésion au cerveau, qu'elle soit un traumatisme, un accident de voiture, une lésion à la naissance, pourquoi est-ce que des sujets vont développer une épilepsie et d'autres ne vont pas développer d'épilepsie? Donc il y a, passer de la lésion cérébrale à l'épilepsie, il y a une cascade de phénomènes sur lesquels, bien sûr, toute la recherche internationale travaille, mais qui n'est pas encore complètement élucidée.
En tout cas, des crises qui peuvent intervenir à tout âge. Et comme chez les adultes, il existe différents types d'épilepsie chez les enfants. Pour en parler, on retrouve le docteur Stéphane Auvin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, auteur du livre « L'épilepsie chez l'enfant, conseil de vie au quotidien » aux éditions John Libé. Eurotexte, docteur Stéphane Auvin, double problématique avec les jeunes patients, contrôler bien sûr la maladie et aussi accompagner l'entourage de l'enfant épileptique.
Absolument, l'enfant et l'entourage. C'est les épilepsies de l'enfant, il y a plein de formes différentes, mais ce qui est commun à toutes ces formes, c'est qu'à un moment ou un autre, cette épilepsie va survenir chez un enfant qui est en plein développement, c'est-à-dire les apprentissages, le comportement et tout ce qui servira d'interface pour sa vie de futur adulte. Donc il faut accompagner, vérifier à la fois ce qu'on peut faire en termes de traitement. Malheureusement, comme l'a signalé Michel Bollack, on a le même pourcentage de patients pharmacorésistants. Donc quand on peut contrôler les choses avec les traitements, c'est mieux. Mais aussi se méfier des effets secondaires des traitements. Et puis, faire tout ce qui est à côté des traitements médicamenteux, c'est-à-dire faire les adaptations scolaires quand on a besoin, éviter les restrictions inadaptées de la vie quotidienne, en particulier dans l'enfance et encore plus à l'adolescence, puisque l'adolescence est caractérisée par la mise en autonomisation. Et c'est tous ces éléments pour lesquels il faut travailler et avec l'adolescent et avec sa famille.
Alors, le professeur Bollack, qui est à mes côtés, a bien fait. Il m'a corrigé. Vous êtes professeur, Stéphane Auvin, et non pas docteur. Vous insistez dans le livre dont j'ai cité la référence tout à l'heure sur le caractère pluriel de cette épilepsie. Et une question, professeur Auvin, est-ce qu'il existe des traitements spécialement adaptés pour la pédiatrie?
Alors, les traitements qui sont utilisés chez les enfants, pour un certain nombre, sont les mêmes que chez l'adulte, mais ils ont été étudiés chez l'enfant pour vérifier s'il n'y avait pas d'impact particulier, en particulier pour respecter les caractéristiques de cette période, c'est-à-dire les apprentissages, le comportement, mais aussi le développement de la croissance ou de la puberté. Et puis, il y a des médicaments qui ont été développés spécifiquement pour des maladies qui sont plutôt des maladies rares en général, qui sont plus fréquentes ou en tout cas qui débutent dans l'enfance. Et dans ce cas-là, il y a des médicaments qui sont un peu plus spécifiques pour l'enfant, qui n'ont pas forcément été étudiés pour l'adulte parce que c'est des maladies rares qui débutent dans l'enfance. Mais on travaille grosso modo quand même avec les mêmes types de traitements, mais avec des façons un petit peu différentes pour certaines maladies.
Vous avez cité justement ce terme d'apprentissage, professeur Auvin. Certains cas d'épilepsie peuvent justement freiner ces apprentissages.
Quand on prend tout patient avec une épilepsie, tout type d'épilepsie confondu chez l'enfant, à peu près un enfant sur deux va avoir des difficultés à l'école. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des difficultés intellectuelles ou dans les apprentissages pour 50% d'entre eux. Il y a différentes composantes. Soit il peut y avoir d'abord l'absentéisme lié à la maladie qui peut jouer un rôle. Il peut y avoir la stigmatisation, la mauvaise compréhension dans le grand public, le rejet, les restrictions sur les choses de la vie quotidienne et même de façon complètement inadaptée. Un patient qui n'a pas fait de crise depuis plusieurs années et pour lequel on refuse sur le plan, par exemple, scolaire d'aller à la piscine. Tout ça, ça fait un certain nombre de stigmatisations chez les patients. Et puis, il existe aussi une proportion de patients qui ont parfois des types de troubles spécifiques d'apprentissage, parfois focalisés sur des déficits d'attention. Mais quand on a un déficit d'attention, c'est difficile quand on zappe en permanence et qu'on n'arrive pas à fixer son attention sur les tâches d'apprentissage, ou parfois des types de difficultés d'apprentissage un peu plus spécifiques, comme sur la lecture, on pourrait dire comme une forme de dyslexie, ou sur les gestes fins, on pourrait dire plutôt une dyspraxie. Donc tout ça peut parfois se mélanger, et donc il faut vraiment avoir une attention complète de ce qui se passe chez ces patients avec épilepsie, pour éviter que les facteurs se cumulent, l'absentéisme, la stigmatisation et éventuellement des difficultés spécifiques d'apprentissage, parce que ça vient finalement faire un tas de difficultés qui peuvent vraiment complètement challenger l'avenir sur le plan scolaire, et c'est vraiment une partie de la prise en charge qui est essentielle.
Alors les auditeurs de Priorité Santé ont des questions qui concernent justement l'épilepsie chez les plus jeunes. Nous sommes en ligne avec Martin qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Martin.
Oui, bonjour, Paris.
Bonjour, on vous écoute.
Ok, au fait, moi j'ai ma fille. Allô?
Oui, nous sommes avec vous, on vous écoute.
Ok, j'ai une fille qui a 22 ans, j'ai 22 mois, et elle a un problème épileptique qui, depuis combien de temps, elle ne marche pas, elle fait des crises. Donc, on a été à l'hôpital et nous avait prescrit le Tegretol et Rivotril. On continue à la donner ça. Mais juste là, ça va. Mais jusqu'à présent, elle ne marche pas. Elle est là, paralysée. Mais on continue avec la rééducation, tout. Mais la crise, ça va. La crise a beaucoup diminué. Elle ne fait plus de crise comme avant. Une fois ou souvent deux fois dans le mois. Ma question est que,
oui,
est-ce que celle-là peut reprendre sa vie normale, c'est-à-dire aller à l'école comme les autres enfants et dans l'avenir?
Donc Martin, donc, votre petite fille qui est prise en charge, qui prend des médicaments, d'après ce que vous décrivez, qu'il y a des retards de croissance, professeur Stéphane Auvin, un lien peut être fait justement entre l'épilepsie et ses retards?
Alors, il y a un lien, et le lien, il est plutôt, je dirais, causal. Par ordre de fréquence, c'est plus souvent une maladie neurologique, par exemple, globale, qui va donner en même temps et des difficultés dans les apprentissages ou un retard dans le développement, c'est-à-dire marcher plus tard que ce qui est habituel, et qui va, cette même cause va donner une épilepsie. Que la cause soit, par exemple, génétique, hein, une maladie génétique du cerveau qui donnerait une dysfonction globale du cerveau, on pourrait très bien imaginer, et c'est des choses qu'on voit d'ailleurs, et une épilepsie et un développement qui va prendre plus de temps que les autres enfants pour se mettre en place. Et c'est vrai qu'en général, le ralentissement est encore un peu plus freiné quand l'épilepsie est très active. Donc, une fois que l'épilepsie est stoppée, on peut espérer avoir un mieux. Donc c'est vrai que souvent, ce lien entre les difficultés d'apprentissage, il est très souvent lié à la cause sous-jacente qui est commune dans la dysfonction du cerveau, pour schématiser ou pour donner une règle un peu plus générale. Et de temps en temps, il faut se méfier des excès de médicaments quand c'est des patients qui sont très résistants, de pas trop combiner trop de médicaments pour ne pas avoir un rôle de ces médicaments sur le frein sur les apprentissages.
Merci beaucoup Martin pour cet appel de Bamako. On va prendre tout de suite un autre auditeur pour aussi là décrire un cas qui concerne une jeune fille. Mathieu, bonjour, vous êtes en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour.
Oui, bonjour Claire.
C'est Caroline, on vous écoute.
Oui, bonjour. J'ai ma fille qui a souffert de l'épilepsie depuis l'âge de 5 ans.
Aujourd'hui, elle a quel âge, votre fille?
Aujourd'hui, elle a 14 ans. Elle était sous traitement sous la dépakine. Depuis près de 9 à 10 ans, elle n'a plus fait de crise. Maintenant, notre inquiétude est de savoir, est-ce qu'on peut guérir complètement de l'épilepsie?
Est-ce que votre fille prend encore un traitement?
Non. Elle a arrêté le traitement environ 9 à 10 ans.
Professeur Stéphane Auvin, cette question, cette jeune fille donc de 14 ans qui maintenant ne prend plus de médicaments, qui ne fait plus de crise, on peut comme ça arrêter un traitement quand ça va mieux?
Alors c'est une excellente question. On peut guérir d'une épilepsie, mais très souvent, il y a un faux ami, on croit très souvent que les épilepsies de l'enfance guérissent toutes à l'adolescence. Alors toutes, là, c'est, en fait c'est pas vrai. Mais il y a un certain nombre de formes d'épilepsie de l'enfance qui peuvent guérir à l'adolescence. Ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours un conseil médical pour arrêter le traitement, parce que pour certaines formes d'épilepsie débutant dans l'enfance, on peut être très bien contrôlé avec le traitement, mais on sait que de tenter d'arrêter, c'est 90 à 100% de récidive. Mais il existe un certain nombre de formes d'épilepsie pour lesquelles on sait qu'on peut arrêter le traitement. Il y a les formes d'épilepsie avec pointe centrotemporale ou épilepsie rolandique, qui est une forme assez fréquente d'épilepsie, où quasiment tous les patients guérissent, hein. Les patients pour lesquels on n'aurait pas d'anomalie sur l'IRM cérébral dans le cadre d'une épilepsie focale, sous certaines conditions, on peut faire une tentative d'arrêt de traitement et à peu près la moitié des patients ne vont pas récidiver. Et puis après, c'est un peu du cas par cas. J'ai parlé vraiment de deux cas très fréquents. Même chose dans les épilepsies absence de l'enfant. Un bon nombre de patients, on peut arrêter le traitement. Le risque à plus long terme n'est pas complètement zéro. Parfois, on dirait un patient sur 10 va réentendre parler d'épilepsie dans sa vie. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas où oui, les épilepsies de l'enfant peuvent guérir. Il faut vraiment avoir une évaluation médicale au cas par cas par un médecin qui connaît bien les épilepsies, parce qu'il y a aussi, dans le cas contraire, des formes qui peuvent être bien contrôlées sous traitement, mais pour lesquelles on va être quasiment à 100% de récidive si on fait une tentative d'arrêt.
Voilà Mathieu, hein, variabilité. Peut-être qu'il n'y aura pas d'autres crises, peut-être qu'il y en aura. Cette réponse du professeur Stéphane Auvin. Merci beaucoup, professeur Auvin. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ce livre que vous avez signé, L'épilepsie chez l'enfant, conseil de vie au quotidien. On est toujours en studio avec le professeur Michel Bollac. On va en reparler tout à l'heure, peut-être en une trentaine de secondes. Quelle conduite à tenir face à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie?
Alors, on va parler d'une crise convulsive, d'une crise où le sujet est sans connaissance et a donc des manifestations de contraction et de secousse des membres. Donc, dans un premier temps, il faut essayer de l'empêcher de tomber, si on peut intervenir à temps. S'il est tombé, il faut l'empêcher de se cogner contre les meubles. Et on peut pas faire grand-chose durant ce qu'on appelle cette phase tonico-clonique. Il faut surtout pas essayer de mettre ses doigts dans la bouche. Il faut attendre que cette phase tonico-clonique se ralentisse. Et à ce moment-là, mettre le sujet sur le côté, en position latérale de sécurité, libérer sa bouche parce qu'il y a parfois un peu de salive. Et puis, selon que l'épilepsie est connue ou pas, appeler les secours ou pas. L'important, c'est les crises qui durent.
On va en reparler tout à l'heure, hein. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, toujours pour parler de l'épilepsie en compagnie du professeur Michel Bollack, neurologue qui dirige l'unité d'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Tout à l'heure avec vous, professeur Bollack, on parlait des gestes de la conduite à tenir en cas de crise, hein, ces crises qui peuvent être spectaculaires, parfois avec des convulsions. Comment réagir justement, professeur Michel Bollack, vous nous disiez ne pas mettre les doigts dans la bouche. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'il y a une idée reçue, une idée fausse, comme quoi, en pleine crise, l'épileptique risquerait d'avaler sa langue. Pourquoi est-ce que les gens pensent ça? Pourquoi?
C'est une idée fausse. Il y a bien sûr ce qui est un petit peu spectaculaire et ce qui inquiète, une morsure de langue. Donc, bon, il y a parfois des gens qui exagèrent en disant qu'il va avaler sa langue. Il y a parfois des gens qui tout simplement veulent empêcher la morsure de la langue. Mais c'est extrêmement difficile de lutter contre une mâchoire serrée par une convulsion. Et on risque de casser des dents, on risque de se faire mal. Donc, voilà. Les gens sont habitués, quand ils ont un objet en plastique un petit peu mou, mais résistant, qu'on est certain qu'il risque pas d'être broyé, qu'il risque pas d'être avalé. Oui, les gens qui ont l'habitude. Mais quand on arrive que la bouche est déjà bien contractée, on peut pas.
Mais aussi, si les gens ont des gestes parfois qui sont pas tout à fait, qui correspondent pas à ce qu'il faut, c'est aussi parce qu'ils ont peur, et notamment ils ont peur que ces crises, vu la violence de la manifestation, soient irréversibles. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des lésions irréversibles qui peuvent se produire à l'issue de ces crises?
Alors, une crise est spectaculaire, la personne devient violette, peut avoir quelques difficultés respiratoire, donc tout témoin peut se dire, mais est-ce que cette personne ne risque pas de mourir?
Tout simplement.
Hein? Donc, alors, c'est là où il faut avoir un discours très, 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 très nuancé. Parce que, avant tout, il faut rassurer les parents, rassurer les témoins. Non, on ne meurt pas d'une crise d'épilepsie, le plus souvent. Et malheureusement, il faut qu'on nuance un petit peu notre discours, parce qu'il y a parfois des catastrophes, des drames qui se produisent, avec des crises d'épilepsie qui se passent la nuit, sous un édredon.
Un étouffement.
Et on a un profil type de patient chez qui on sait que le risque de décéder par arrêt respiratoire au cours d'une crise existe.
Alors, il y a par exemple des cas d'épilepsie nocturne, des gens qui déclenchent justement pendant le sommeil?
Le sommeil, qui est un mode de fonctionnement du cerveau particulier, et quand le cerveau switch en mode sommeil, eh bien, il y a parfois des crises d'épilepsie qui peuvent se déclencher.
Alors, il y a beaucoup de pistes thérapeutiques. Tout à l'heure, quelques-uns de nos auditeurs ont comme ça énuméré, lancé des noms de médicaments, justement, de nombreux traitements médicamenteux. Comment agissent-ils? Et puis, il faut le souligner, ce sont des traitements et ça ne soigne pas, ce n'est pas curatif.
Exactement. Ce qu'on appelle des médicaments anti-épileptiques sont en fait des médicaments anti-crise d'épilepsie, mais ils ne soignent pas la cause sous-jacente. Alors, on a toute une panoplie de médicaments, depuis le bon vieux Gardénal, si je puis dire, jusqu'aux médicaments les plus récents, et il y en a un certain nombre qui a été mis sur le marché récemment. Et ce sont des médicaments, d'une manière générale, on a progressé en diminution des effets secondaires. Ce sont des médicaments qui sont mieux tolérés. On a progressé en spécificité, c'est-à-dire ce médicament est plus adapté à tel type de crise ou à tel type de situation.
Ça veut dire qu'un patient va devoir changer de traitement, par exemple? Il va falloir ajuster le traitement?
Oui. Il faut toujours ajuster le traitement à un patient, c'est-à-dire qu'il faut analyser le type de crise, analyser le type de maladie épileptique, et à ce moment-là, choisir le ou les médicaments les plus adaptés. En revanche, on n'a pas énormément gagné en termes d'efficacité au cours de toutes ces 10, 20 ou 30 dernières années où on a développé de nouveaux médicaments anti-épileptiques.
Développement de nouveaux médicaments, professeur Michel Bollack, est-ce que beaucoup de chercheurs, justement, travaillent sur ces molécules, essayent de trouver d'autres moyens d'attaquer la maladie?
Alors, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'attaquer la maladie. Il y a de trouver des médicaments anti-crise, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a une recherche qui continue et on trouve des médicaments de plus en plus spécifiques. On essaie de travailler sur de nouveaux modes d'action. Un médicament anti-épileptique qui cherche à diminuer l'excitabilité, mais c'est pas forcément le mode d'action unique, il y a des effets secondaires, donc on essaie de trouver des moyens d'action beaucoup plus ciblés. Mais il y a d'autres choses. Il y a la chirurgie de l'épilepsie qui peut être utilisée de temps en temps, il y a de la neurostimulation. Et puis, notre but, le but de la recherche, c'est de trouver un médicament de la cause de l'épilepsie.
Et il y a aussi des régimes alimentaires, ça c'est particulièrement ciblé pour les enfants, ce qu'on appelle le régime cétogène. en gros, hein, limiter les sucres, voire les éliminer. Professeur Michel Bola, qu'on essaye pour les enfants, éliminer le sucre pour un enfant, on imagine, c'est pas simple. C'est très contraignant, en plus que la maladie, ça doit être très difficile à vivre.
Voilà, c'est une contrainte de plus, c'est une contrainte énorme pour l'enfant, pour sa famille, parce que toute la famille est pratiquement au même régime, et le plus souvent, c'est difficile à tenir. Mais dans certaines formes d'épilepsie, chez l'enfant, il peut y avoir des succès spectaculaires qui, à ce moment-là, encouragent les efforts qui doivent être faits.
Une autre piste qu'on évoque maintenant, c'est le cannabis médical. Professeur Michel Bola, comment cela agit justement sur le sujet épileptique ?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire. Mais le cannabis, d'abord, c'est non pas un produit, mais c'est plusieurs composés. Il y a deux composés principaux, il y a celui qu'on appelle le THC et celui qu'on appelle le cannabidiol. Le THC, on va dire, c'est celui qui fait planer, c'est celui qui est psychoactif. Et le cannabidiol est peut-être celui qui a des vertus médicales dans un certain nombre d'affections neurologiques et en particulier dans l'épilepsie. Donc actuellement, des médicaments à base de cannabidiol uniquement sont en train d'être développés, sont en train d'être testés et des tests ont été faits dans ce qu'on appelle les encéphalopathies épileptiques, dans des maladies graves épileptiques de l'enfant jeune, et il y a des résultats positifs.
Alors, diversité des prises en charge, options thérapeutiques aussi, on vient de l'entendre. Et un constat de l'OMS, les trois quarts des personnes atteintes d'épilepsie dans les pays les moins développés ne reçoivent pas le traitement adapté, nécessaire, notamment parce que les antiépileptiques génériques sont peu disponibles dans les pays à faible revenu. On retrouve en ligne de Dakar le professeur Moustapha Ndiaye. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neuropédiatre, secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, président de la Société sénégalaise de neurologie. Professeur Ndiaye, est-ce qu'on dispose des chiffres en ce qui concerne la prévalence de l'épilepsie dans votre pays, le Sénégal ?
Oui, au Sénégal, la prévalence de l'épilepsie est de 12 pour 1000. Ce qui fait que en chiffre brut, ça fait à peu près 300 000 épileptiques au Sénégal. En majorité des enfants.
60 000 personnes épileptiques. Comment traitez-vous ces malades, professeur Ndiaye?
Nous les traitons principalement avec les médicaments disponibles. Et les médicaments disponibles à Dakar, comme un peu partout en Afrique, c'est ce qu'on appelle les anciens médicaments. C'est les médicaments qui ont une certaine efficacité, une efficacité éprouvée, et qui donnent pour l'essentiel de bons résultats. Bon, les nouveaux médicaments ne sont pas encore disponibles chez nous, tout au moins de façon officielle. On peut les avoir au compte-goutte, mais il faut savoir qu'en termes d'efficacité, les anciens médicaments ont une efficacité au moins égale à l'efficacité des nouveaux médicaments, ce qui est un atout quand même considérable.
Est-ce que le public dans votre pays est bien informé sur les causes de la maladie, professeur Ndiaye ?
Oui, bien entendu, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y avait beaucoup de stigmatisation parce que dans la population générale, la perception de la maladie était que l'épilepsie était un phénomène surnaturel et lié à des exercices malfaisants. Mais il faut dire que depuis une vingtaine d'années, avec les actions de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, des actions de communication, des actions de formation, et surtout avec les mutations qui se passent au niveau de nos sociétés, il y a un changement de mentalité qui fait que, par exemple, cette maladie est perçue de plus en plus comme une affection organique et les enfants, les familles consultent de plus en plus les médecins.
Donc vous percevez un vrai changement de mentalité ?
Qui est réel.
C'est
très perceptible, oui.
On parle quand même de cette image de la maladie dans l'opinion. Et puis, il y a pour la région tropicale une cause infectieuse. C'est une infection parasitaire du système nerveux central. J'espère que je vais réussir à le dire du premier coup. La neurocysticercose. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette affection ?
La neurocysticercose, ça ne concerne pas toutes les régions d'Afrique. C'est principalement cette région d'Afrique centrale, notamment des régions où les modes alimentaires, les habitudes de vie font que, par exemple, le porc est intégré dans
l'alimentation.
Au Sénégal, pour l'essentiel, nous n'avons pas cette relation avec cet environnement. Disons que le porc est très peu consommé, quand bien même il y a certaines communautés qui le consomment, il s'y ajoute les modes culinaires sont différents, par exemple, par rapport à ce que ça fait. Ce qui fait que, ici au Sénégal, les principales causes de l'épilepsie sont les anomalies de la grossesse et de l'accouchement et les infections du système nerveux central, chez l'enfant en tout cas.
C'est pour ça qu'il y a un très grand nombre de cas d'épilepsie pédiatrique, avec donc des traumatismes lors de la naissance pour les bébés et des répercussions pour la qualité de vie ensuite. Merci beaucoup, professeur Moustapha Ndiaye. Je rappelle que vous êtes neuropédiatre, secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie. Professeur Michel Bollack, on parle de l'épilepsie depuis très longtemps dans les représentations, dans la littérature. De nombreuses personnalités du monde connues étaient épileptiques. Et pourtant, pourquoi cette maladie reste mal connue ?
Elle reste mal connue parce que d'abord elle est très diverse. Il y a plusieurs scénarios comme on l'a vu, il y a plusieurs causes, il y a tous les âges. Il y a beaucoup de gens âgés qui vont développer une épilepsie. Le deuxième pic de fréquence maintenant est au-dessus de 65 ans. Et quand une personne âgée a un épisode un petit peu confusionnel, on pense pas tout de suite qu'il peut s'agir d'une crise d'épilepsie. Mais ça peut l'être et on a de plus en plus de patients dans cette tranche d'âge. Donc il y a une méconnaissance de tous ces scénarios. Et puis il y a la peur que cette maladie engendre. Je pense que la malédiction de l'épilepsie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est son imprévisibilité. C'est le fait que, pour le patient comme pour l'entourage, on ne sait pas quand la maladie risque de frapper. Et c'est pour ça que, dans la recherche contre l'épilepsie, on a pas mal de moyens qui sont mis sur peut-on anticiper une crise ? Pourrait-on dire à quelqu'un, attention, là, dans les 15 minutes qui viennent, vous risquez de faire une crise. On n'est pas sûr, mais vous risquez de faire une crise. Et dans ce cas-là, la personne pourrait prendre des précautions, s'asseoir, ça changerait. Prévoir un petit peu une crise changerait complètement la perception.
Ouais, parce qu'il y a la maladie, la qualité de vie aussi, comme va tout de suite en témoigner Aminata. Elle est en ligne de Dakar au Sénégal. Bonjour Aminata.
Ah bonjour Caroline.
On vous écoute.
Mes meilleurs voeux d'abord aux auditeurs de RFI.
Merci, à vous aussi.
Merci.
Donc racontez-nous votre témoignage. Vous êtes diagnostiquée épileptique depuis longtemps déjà.
Ah oui, depuis l'âge de 13 ans. Donc pendant 33 ans, maintenant, je vis avec l'épilepsie.
Et vous travaillez, vous avez une activité professionnelle et vous prenez un traitement aussi depuis très longtemps?
Oui, je suis en traitement depuis longtemps, depuis qu'on l'a diagnostiqué. Mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'avoir des activités. Je travaille, j'ai ma vie de famille, ma vie de couple. Mais comme tous les épileptiques, la maladie m'empêche certaines activités, comme le sport. Comme la conduite automobile.
C'est vous qui vous interdisez ces activités ou cela vous a été prescrit? Quelqu'un vous a dit pas de voiture pour vous, pas de sport. La voiture, on peut comprendre pour des raisons de sécurité, mais pourquoi pas de sport?
Oui. Pas de sport parce que vous savez, ça peut m'arriver à tout moment. Et si ça se trouve que je suis en activité sportive, ça peut me créer des difficultés, ça peut créer un accident. Donc, pour éviter ces problèmes, c'est le médecin même qui m'a interdit de faire du sport depuis longtemps, sauf les randonnées pédestres, évidemment.
Et les traitements que vous prenez, il a un bon effet, il agit bien sur votre santé, vous avez donc moins de crises, vous vous sentez mieux?
Ah oui, maintenant moins de crises. Avant, les crises étaient imprévisibles, mais maintenant, je les sens, je prends soin d'aller m'allonger. Et même si c'est dans la rue, avec des gens, je prends le temps d'avertir mes proches pour leur dire je pense que je vais bientôt tomber.
Donc vous sentez à l'avance ce qui va vous arriver. Professeur Michel Bollack, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais les médecins font des recherches là-dessus. Il y a aussi des patients qui, comme Aminata, qu'on remercie infiniment pour son témoignage, comme Aminata, qui peuvent ressentir, connaître tellement leur maladie que d'une certaine manière, elle la dompte même si elle la contrôle pas.
Alors, il y a des patients qui ont parfois des signes prémonitoires quelques heures à l'avance. Ils savent qu'ils sont pas bien, qu'ils ont un risque plus élevé. Et puis, ce à quoi Aminata faisait allusion, c'est vraiment quelques secondes avant la crise, ils perçoivent des symptômes très particuliers. En fait, ces symptômes particuliers sont déjà la crise, mais sont une décharge qui est limitée, comme on le disait tout à l'heure, qui n'a pas encore envahi l'ensemble du cerveau, mais ils savent que cette décharge va se propager, qu'il faut qu'ils fassent attention. La question importante, c'est combien de temps est laissé. Parfois, c'est une fraction de seconde, parfois c'est quelques secondes, parfois un petit peu plus.
Qu'on parlait tout à l'heure de sa qualité de vie, des choses dans la vie quotidienne qu'elle s'interdit. D'ailleurs, il y avait même des interdictions tout à fait légales. Hein. Mmh. Certains pays interdisaient le mariage, certains pays font toute une liste de métiers qu'on interdit aux épileptiques. C'est d'ailleurs vrai en France. Hein. Mmh. Bien sûr, on comprend, on peut pas être pilote de ligne quand on est épileptique. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la part des médecins tout un travail d'information pour dire « ne vous bridez pas ». Ne vous censurez pas.
Absolument, absolument. Et il y a beaucoup trop d'interdits qui sont généralisés à tous les patients qui ont des problèmes d'épilepsie, alors qu'au contraire, il faut raisonner individuellement. Pour le cas d'Aminata, il faudrait savoir quel est son type de crise, qu'est-ce qu'elle sent, quelle est la fréquence des crises, quels sont les médicaments, et adapter les précautions.
Par exemple, faire du sport, mais certains sports.
Exactement.
Du yoga, même c'est pas du sport, mais faire de la gymnastique, on voit pas forcément de contre-indication dans son cas.
Non, non, je crois qu'il faut, voilà, il faut être assez large et assez libéral dans les autorisations.
Et on entendait hein, beaucoup de cas d'épilepsie pédiatrique, on imagine encore plus pour les enfants ne pas justement brider, parce que sinon c'est carrément boucher l'avenir.
Ça fait partie de la stigmatisation de dire maintenant toi tu peux pas aller à la piscine, donc tu restes là. Pourquoi tu restes là? Ben parce que vous voyez, c'est le début d'une stigmatisation.
Ça veut dire que forcément quand on est médecin et qu'on traite de l'épilepsie, toute une démarche, toute une réflexion personnelle va aussi porter sur l'information et sur cette socialisation des patients.
Absolument. Il faut, comme disait Stéphane Auvin tout à l'heure, il faut les intégrer au mieux. Mais pour ça, c'est une analyse individuelle. Ce qui pose problème dans l'épilepsie, c'est qu'on prend les mêmes précautions pour tous. Non, il faut adapter à chaque situation.
Et est-ce que le médecin, la consultation chez le neurologue suffit pour ça? Ou il faut en plus, par exemple, préconiser dans certains cas un accompagnement psychologique?
Un accompagnement psychologique peut être utile, ça dépend du profil psychologique, de la situation, de l'entourage. Il faut parfois faire ce qu'on appelle une éducation thérapeutique. C'est pas forcément évident pour un jeune d'avoir un traitement à prendre, de savoir quels sont les styles de vie qui risquent de faire survenir des crises. Par exemple, apprendre à gérer son sommeil, apprendre à gérer ses médicaments. Donc, l'éducation thérapeutique est importante.
Merci beaucoup. Cet échange touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Michel Bollack, de nous avoir éclairé sur l'épilepsie. Je rappelle que vous êtes neurologue et que vous dirigez l'unité d'épilepsie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue, vous allez nous parler des cancers sexuellement transmissibles, car ce mode de transmission existe bel et bien.
Oui, alors en fait on parle de cancer sexuellement transmissible, mais ce qui se transmet en réalité c'est un virus qui augmente le risque de cancer. Donc ces cancers sexuellement transmissibles sont liés à des infections sexuellement transmissibles.
Alors précisément de quel virus s'agit-il, ces fameux virus qui pourraient éventuellement transmettre ces cancers sexuel?
Alors le premier, c'est le papillomavirus qui est à l'origine des cancers du col de l'utérus chez les femmes. Alors heureusement, ce cancer se soigne bien parce qu'on le dépiste par des frottis qu'il faut faire régulièrement et on en dépiste 500 000 par an dans le monde, donc 80% se trouvent dans les pays en voie de développement.
Alors comment ça se passe? Quel est ce mode de transmission? Ce virus, comment entraîne-t-il un cancer?
Alors ce virus se transmet par les rapports sexuels et puis il s'installe dans le col de l'utérus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez 90% des femmes où il arrive au col de l'utérus, il est éliminé par le système immunitaire. Mais chez 10% des femmes, et bien cette élimination ne fonctionne pas et le virus s'installe durablement pour des années. Et là, il va déclencher des dégâts qui ne soient pas du tout au début et qu'on dépiste par les frottis. Mais au fil des années, ça donne un risque de cancer de l'utérus parce que ces femmes n'ont pas une bonne immunité. Et pourquoi elles n'ont pas une bonne immunité? Et bien une des causes, c'est le tabac. Le tabac augmente énormément le risque de cancer du col de l'utérus et on sait aussi que l'alcool et le cannabis peuvent aussi jouer à ce niveau-là.
Est-ce que ces papillomavirus peuvent provoquer d'autres cancers ?
Oui, le cancer du col de l'utérus, c'est le plus fréquent, mais ils peuvent aussi provoquer des cancers de l'anus chez les personnes qui pratiquent la pénétration anale sans préservatif, des cancers de la gorge en cas de pratique de fellation sans préservatif, et aussi, c'est quand même aussi plus rare, des cancers de la vulve ou du pénis.
Et quels autres virus peuvent provoquer des cancers sexuellement transmissibles ?
Alors, il y a le virus de l'hépatite B qui se transmet par voie sexuelle et qui est beaucoup plus contagieux que le virus du sida, par exemple. Ce virus peut entraîner des cancers du foie parce qu'en fait, il va déclencher des hépatites chroniques chez certaines personnes, donc des cirrhoses du foie chez ces personnes si ça dure, et sur les cirrhoses du foie, des cancers. Mais heureusement, toutes les personnes qui ont une hépatite B ne développent pas un cancer.
Et comment se protéger contre ce type spécifique de cancer ?
Alors, ces cancers sexuellement transmissibles, on s'en protège avec les préservatifs féminins ou masculins. Et puis, en limitant le nombre de partenaires, parce qu'on sait que l'infection par des virus est d'autant plus fréquente que l'on a eu des partenaires multiples. Et puis, évidemment, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a des vaccins contre les papillomavirus et contre le virus de l'hépatite B. Et par exemple, on sait qu'en Chine, on a massivement vacciné les populations contre l'hépatite B et on a vu un nombre de cancers du foie diminuer énormément, alors que c'est un pays où il y en avait beaucoup. Et puis, pour le papillomavirus, les femmes doivent faire des frottis de dépistage à peu près tous les 2 ans, parce que si on détecte le cancer du col de l'utérus au début, il se soigne très très bien et facilement.
Et docteur Catherine Solano, on parle aussi du VIH. Est-ce que le virus du sida peut-il donc être en cause dans la transmission de certains cancers ?
Eh bien, on peut dire que oui, parce que les personnes porteuses du VIH ont une immunité qui est moins bonne et de ce fait-là, elles ont une augmentation du risque de cancer. Donc, ces personnes doivent être suivies de près, pas seulement pour être traitées contre le VIH, mais aussi pour leurs problèmes de santé plus général.
Alors donc, au total, pour se protéger des cancers sexuellement transmissibles, Catherine Solano, docteur Solano, vous pouvez nous rappeler ces 3 grands conseils ?
Voilà, donc on se protège avec des préservatifs, on se vaccine contre l'hépatite B et le papillomavirus, bon, si c'est possible pour les femmes. On pratique régulièrement des frottis de dépistage chez le médecin généraliste ou le gynécologue.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, sexologue. Notre rendez-vous du jeudi dans Priorité Santé. Les questions des auditeurs et des auditrices au docteur Catherine Solano, sexologue, maintenant avec des questions au téléphone, mais aussi sur notre page Facebook, Priorité Santé, avec Mélanie de Yaoundé au Cameroun, qui pose cette question. Elle n'arrive pas à faire l'amour quand elle n'a pas de vrais sentiments. Elle associe les deux avec son ancien copain, son ancien petit copain. Elle était méfiante, elle ne se laissait pas toucher et elle a fait un véritable blocage. D'où cette question qu'elle vous adresse donc, docteur Catherine Solano. Mélanie, comment faire pour se débloquer ?
Eh bien, une chose très importante, c'est que d'abord, elle parle de sexualité et de sentiments. Eh bien, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à faire l'amour sans sentiment. Il y en a qui font l'amour sans sentiment et qui multiplient les aventures. Eh bien, c'est pas sûr que ça les rende très heureux. D'autres, comme Mélanie, disent « moi, je peux pas ». Pourtant, mes amis le font. Pourquoi moi, je ne peux pas ? Et en fait, quand on n'arrive pas à faire l'amour sans sentiment et sans confiance, c'est qu'on a notre esprit qui nous protège. Il se dit, si je la laisse faire l'amour sans sentiment, ça va lui faire du mal. Elle va peut-être tomber sur quelqu'un qui va profiter d'elle et la faire souffrir. Donc, c'est pas forcément un blocage. Ça peut être une protection aussi.
Mais dans ce cas particulier de Mélanie, elle utilise bien ce terme de blocus, de blocage.
Voilà. Et c'est vrai que quand on a une protection trop forte, eh bien, ça peut aller jusqu'au blocage. C'est-à-dire que vous avez un partenaire qui vous aime, qui est aimant, en qui vous avez confiance, vous aimeriez vraiment être à l'aise et pourtant vous n'y arrivez pas. Eh bien, dans ce cas-là, presque tout le temps, c'est que votre corps, il a peur. Il a vécu sans doute des mauvaises expériences avec des hommes en général, soit avec son père, par exemple un père qui vous battait, tout simplement, c'est horrible, avec son frère, avec un autre homme, et il n'a pas du tout confiance, même si la personne à vous, elle vous semble digne d'être aimée.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas ?
Donc, moi, je conseille à mes patientes ou à mes patients, parce que ça arrive aussi aux hommes, de parler à leur corps et dans leur tête, et de lui dire, par exemple, « Bonjour mon corps, tu as raison de vouloir me protéger et de me défendre et il faut continuer à le faire. » envoie-moi un signal quand tu penses que quelqu'un n'est pas digne de confiance et je t'autorise à te bloquer dans ces cas-là. Mais là, cette personne, cet homme, moi je l'aime, je le connais bien, j'ai confiance en lui, j'ai envie d'être bien avec lui et je te donne le feu vert pour l'aimer. Et lui dire aussi, tu sais, si tu n'acceptes pas de t'ouvrir, tu peux passer à côté du plaisir. Et si vous parvenez à rassurer votre corps, eh bien, il peut décider, se débloquer, de se laisser aller au plaisir. Si ça ne suffit pas, parce que ça suffit pas forcément, je vous conseille de consulter quelqu'un qui peut vous aider en psychothérapie pour vous redonner confiance. Et c'est ce que je conseillerais à Mélanie, si ça se débloque pas, de se faire aider.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et donc, ces conseils qu'on adresse à Mélanie de Yaoundé au Cameroun. Le docteur Catherine Solano vient de l'évoquer lors de sa chronique, le cancer du col de l'utérus. Eh bien, nous consacrons à lundi une émission entière à cette maladie. On se retrouvera donc lundi pour en parler. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de Priorité Santé qui chaque jour fabrique et réalise l'émission. Assez Toussamaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu et aujourd'hui Laurence Naud. Demain, on parlera de la lèpre à l'occasion de la 65e journée mondiale des lépreux. Vos témoignages, vos questions, toujours le même numéro, 33 1 84 22 75 75. Et vous pouvez bien sûr nous réécouter sur le site internet rfi.fr, la rubrique émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui vous souhaite une bonne et heureuse année pleine d'assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.